Le Major Lynch de Marie Écart. Il entra dans mon cabinet la figure radieuse, les lèvres épanouies par un sourire qui ne lui était plus habituel, et il se jeta dans un fauteuil. « Elle-même, dit-il, elle-même. Allons donc, pas possible. Je vous en réponds. Elle vient de me le dire elle-même. Elle m'épousera quand je le voudrai. Et comme je suis très pressé, ce sera demain. Je viens vous prier d'être mon témoin. Impossible. Ah, reprit-il, vous êtes comme moi. Vous ne pouvez pas croire en mon bonheur. Cependant, en dépit de moi-même, il faut bien que je croie qu'elle m'aime. Elle vient de me le dire. Elle me l'a répété plus de 20 fois, avec l'accent le plus doux, avec le sourire le plus persuasif. Elle a mis sa main dans la mienne. » M. Charles Rimbaud, qui me tenait ce langage, est un très joli homme de 26 ans, riche, et ainsi qu'on le voit, très amoureux d'une jeune personne dont il recherchait la main avec ardeur. Malgré ses avantages, celle à qui il adressait ses vœux ne l'aimait pas. C'était une jeune fille aux yeux noirs, aux cheveux de jais, à la figure mutine et qui, pour le malheur de mon ami, s'était éprise d'un de ses parents, il faut l'avouer, aussi jeune, aussi riche, aussi bien tourné que M. Charles Rimbaud. Mademoiselle Aglaé Lombard, tel était le nom de cette Hélène, n'avait plus de mère et M. Lombard, qui adorait sa fille, la laissait libre de choisir entre les deux prétendants. Néanmoins, s'il avait suivi son goût particulier, il aurait donné la préférence à mon ami Charles, et celui-ci profitait de ces dispositions bienveillantes du père pour faire sa cour à la fille. Mademoiselle Aglaé, fille très franche et même un peu violente, ne mettait nulle coquetterie dans sa conduite. « Je ne vous aime pas, monsieur Charles, » disait-elle à mon ami d'un ton dégagé. « J'aime mon cousin Alfred et je l'épouserai. Il faut vous consoler. Vous ne perdez pas grand-chose en perdant une femme qui n'a point d'inclination pour vous. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire que les hommes se consolent toujours. » Mais Charles ne se consolait pas. Les choses en étaient là lorsqu'il vint chez moi, joyeux et triomphant. Tout était changé. Quelques heures avaient suffi pour éteindre dans le cœur changeant de Mademoiselle Aglaé l'amour qu'elle ressentait pour son cousin, et chose plus miraculeuse encore, pour lui ouvrir les yeux sur le mérite jusque-là méconnu de mon ami Charles. Moi, je ne crois pas à ces miracles. Je crois au dépit amoureux de Molière, parce que les amants de nos jours ressemblent à ceux de son temps. « Vous n'épouserez pas, Mademoiselle Aglaé, » dis-je à Charles. « J'ai sa parole, j'ai celle de son père, le respectable M. Lombard. M. Alfred, ce malheureux cousin qui seul s'opposait à mon bonheur, est un perfide. Hélas, ce sont eux qu'on aime le mieux. Il part pour la Californie. On en revient, mon ami. Vous êtes désespérant. Et mon Dieu, qu'il en revienne, pourvu qu'il y aille. Est-ce que vous suspecteriez la sagesse de Mademoiselle Aglaé? Dieu m'en garde. Vous êtes donc certain d'épouser celle que vous aimez? Je vous dis que j'ai la parole du père et de la fille. Alors vous êtes perdu. Vous serez aussi malheureux que l'a été le Major Lynch, et plus coupable. Qu'est-ce que c'est que ce Major Lynch? Me demanda Charles avec effroi. Est-ce qu'il a été aussi amoureux de celle que j'aime? Non, non, rassurez-vous. Le major n'est jamais venu en France. Il n'a jamais mis les pieds dans la rue de Provence, où demeure, je crois, Mademoiselle Lombard. Celle qu'il aimait se nommait Pepa de la Ronda, elle était de Madrid. Et le major? À l'époque dont je vais vous parler, le major servait dans la marine. Il était midshipman. Il a passé plus tard dans l'armée de terre. Je ne sais par suite de quelle contrariété. « Pouvez-vous oublier un instant, Mademoiselle Aglaé, ainsi que l'aveu, pour moi fort suspect, que vous avez reçu d'elle et m'écouter ?»« Cela sera fort difficile. N'importe, je commence. L'axiome que Molière a rendu si plaisant, la polygamie est incapendable, n'est nulle part plus vrai qu'en Angleterre. »« la polygamie !» s'écria Charles. « Que me parlez-vous d'avoir plusieurs femmes? Je n'en ai pas encore une. Elle ne m'aime que d'hier. Et moi je sens que je l'aimerai toute ma vie. » Et que je n'aurai jamais Dieu ni de cœur que pour elle seule. À la bonne heure. Laissez-moi vous dire qu'en Angleterre, un homme qui épouse 2 femmes est puni par la corde et que cependant, malgré les lois si sévères contre la séduction, le crime de bigamie est assez commun. L'argument principal des donjons de la Grande-Bretagne est le mariage. Forte de cette promesse, difficile à ne pas tenir, les jeunes filles succombent souvent et ne se présentent au clergyman que dans un état tel qu'il est aisé de voir que leur lune de miel est passée et que les droits de l'Église ont été fraudés. L'infraction est légère, suivant elle, puisque l'issue est certaine. Lisez, Clarissa Harlow, et vous verrez dans ce long combat de la vertu éclairée contre le vice habile que Clarisse ne doute pas des intentions de Lovelace. Elle est persuadée avec raison que celui qui veut la séduire a la volonté de l'épouser. Elle hésite néanmoins, parce qu'il s'agit pour elle de savoir si Lovelace est ou non vicieux, et s'il est convenable à une honnête fille comme elle d'épouser un homme pareil. Voilà ce qui occupe cette fille puritaine, même après son enlèvement. De son côté, Lovelace, en écrivant à son ami Belford, ne montre aucun éloignement pour le mariage. Il est, au contraire, blessé des refus de Clarisse et animé d'une haine profonde contre les Harlow. Toutes les jeunes filles d'Angleterre sont loin d'être des Clarisse, mais toutes regardent une déclaration d'amour comme équivalent à une promesse de mariage. Et les mœurs publiques favorisent cette opinion. Il résulte de là qu'on se marie jeune en Angleterre. Souvent aussi, un engagement pris avec légèreté se dissout de lui-même, et le mari abandonne la femme ou la femme le mari. Gare alors aux faiblesses amoureuses. La loi est là, inflexible, cruelle, qui punit l'adultère par la ruine et la bigamie par la corde. « Vous viendrez avec moi, me dit Charles, acheter la corbeille de mariage ?»« Non pas, on nous tromperait trop aisément tous deux. Songez donc que pour remplir convenablement une corbeille de mariage, il faut aller dans 20 magasins différents. Il faut traiter avec le bijoutier, la lingère, le marchand de châles, la marchande de dentelles, le fabricant d'étoffes. Nous ne ferions rien de bien, ni vous ni moi. Votre corbeille de mariage serait de 10 ans en arrière de la mode. » N'oubliez pas que Mademoiselle Aglaé est parisienne et qu'il lui faut les choses les plus nouvelles. Ma femme fera cela pour vous. Les femmes sont enchantées de se mêler de ces sortes d'affaires. Votre femme, soit, dit Charles. Je vais donc la prier de prendre pour moi cette peine. Vous ne voulez pas savoir l'histoire de Major Lynch? Au contraire, mais vous ne me parlez que de cordes, de Clarisse Harlow et de lois anglaises. M'y voici. L'année passée, c'était dans le mois de décembre, quelques jours avant la fin de Noël, qui se célèbre avec une grande solennité en Angleterre. Il était 8 heures du soir, le temps était froid, humide, et le brouillard si épais que l'éclat du gaz n'en pouvait percer l'intensité et devenait invisible à quelques pieds du bec d'où s'élançait son fluide lumineux. Un homme d'une taille élevée, et dont la tournure avait conservé toute l'élégance de la jeunesse, se glissait, plutôt qu'il ne marchait, dans la longue rue d'Oxford, enveloppé dans un manteau de caoutchouc. Il était évidemment préoccupé de la crainte d'être reconnu malgré l'obscurité. C'était peu probable. Quoique la rue d'Oxford soit très fréquentée, aucune connaissance du Major Lynch ne devait s'y trouver à pied et à cette heure. Mais la possibilité du fait existait, et cela suffisait pour donner une crainte telle au Major qu'il semblait avoir des ailes. Malgré un froid de 18 degrés, sa figure était animée, et ses cheveux déjà gris collés sur son front comme dans un jour d'été. Après une course haletante, il arriva enfin devant une petite maison d'un extérieur confortable, et soulevant un marteau de cuivre, il frappa 3 coups violents. La porte s'ouvrit sur le champ. « Milady Lynch, » dit-il au domestique qui se présenta. On l'introduisit dans un parloir obscur, où on le laissa seul. Il s'assit alors dans un fauteuil, accablé de douleur. Un frisson fiévreux s'empara de lui. Mais il est temps de vous dire dans quelle position se trouvait le malheureux lord. « Ce n'est pas difficile à deviner, » dit Charles, qui était parvenu à oublier un moment sa maîtresse et sa corbeille de mariage. Il allait voir sa femme et il ne l'aimait pas. Sa première femme. Il en avait 2. Lord Lynch passait avec raison pour un des officiers les plus distingués de l'armée anglaise, et la veille encore de l'événement qui l'amenait dans la rue d'Oxford, il se regardait comme l'homme le plus heureux des 3 royaumes, époux d'une femme qu'il adorait, père de 3 enfants charmants. Il était parvenu à éloigner de son esprit tous les souvenirs du passé, et il avait coutume de dire qu'il ne datait sa vie que du jour de son mariage. « Du premier ?» demanda Charles. « Non, du second, écoutez-moi. » Ce passé qu'il rejetait ainsi avait eu ses plaisirs, ses douleurs, et de si cruels mécomptes qu'il était naturel qu'il employât toute sa force d'âme à l'oublier. « Ma foi, » dit Charles qui commençait à devenir attentif, « je crois que pour y parvenir, il n'aurait pas dû aller dans la rue d'Oxford. » « Vous allez comprendre quelle terrible nécessité l'y poussait. » 20 ans auparavant, Lord Lynch, alors midshipman, se trouvait à Madrid, où il avait été voir l'ambassadeur d'Angleterre, un peu son parent. Il se prit d'amour pour une riche et belle Espagnole. « Mademoiselle Pepa de la Ronda ?»« Précisément. » Et il l'épousa. La jeune fille ne l'aimait pas. « Je croyais, me dit Charles, que les Espagnols n'avaient pas ces faiblesses. On m'a dit qu'elles portaient à la jarretière un petit poignard propre à protéger leur passion et à empêcher les audacieux de les épouser malgré elles. Cela est vrai. Mais Pepa épousa volontairement le jeune Anglais et lui cacha l'amour qu'elle éprouvait pour Don Juan de Cuentes. « Pourquoi donc épousa-t-elle l'Anglais ? » dit Charles. « Que sais-je ? Une misère, un rien ? Une querelle d'amant, un dépit amoureux, peut-être un accident pareil à celui qui brouille depuis quelques heures Mademoiselle Aglaé avec son parent, M. Alfred. « Continuez, je vous écoute, » dit Charles. Je repris. Avant même la fin de la noce, un coup d'œil échangé entre les deux amants suffit pour les mettre d'accord. Alors l'Espagnol prit à part son mari d'une heure et lui avoua, avec une franchise sauvage, qu'elle avait un amant, qu'elle n'aimerait jamais que lui et qu'il fallait renoncer à elle. « Partez, lui dit-elle, qu'êtes-vous venu faire à Madrid ? Les Anglais doivent rester dans leur pays et épouser des Anglaises. Il faut laisser les Espagnols aux Espagnols. Adios, señor Inglés, hasta la vista. » L'Espagnol tourna sur ses talons, et quittant la maison de son père où la noce s'était faite, elle courut, sans doute auprès de son amant, pour lui raconter ce qu'elle venait de faire. L'Anglais ne dit rien d'abord. Il demeura pensif et étonné. Puis, s'adressant à une servante, il demanda quel était cet homme qu'on lui préférait. « C'est Juanito, » lui dit la jeune fille, l'aimable, le séduisant Juanito. « Un majo, señor Inglés. » Le fait semblait si simple à la servante qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se serait donné la peine de le déguiser. Lord Lynch apprit que son rival logeait dans la rue d'Alcala et qu'il se nommait Don Juan de Cuentes. Rien n'était plus contraire aux mœurs et aux habitudes anglaises que ce qui se passait. Une femme qui épouse un homme sans l'aimer, qui presque au pied de l'autel déclare à son mari qu'elle le quitte pour suivre ou plutôt pour courir après un amant. Cela confondait toutes les idées du jeune midshipman. Cela lui semblait une monstruosité qui approchait de la folie. Il fallait s'expliquer avec ce Don Juan de Cuentes, puisque la nouvelle mariée n'était pas en état d'entendre la raison. Lord Lynch prit donc le chemin de la rue d'Alcala, et il n'eut que quelques pas à faire pour se trouver face à face d'un jeune homme, la tête couverte d'un large sombrero et portant la capa avec une élégance inimitable et particulière aux Espagnols. On ne voyait que les yeux du jeune homme, deux yeux noirs et animés d'un feu sombre. C'était Don Juan, celui qu'on appelait Juanito dans la maison de la Ronda, dont il était le commensal habituel. « My lord, » dit-il poliment, « êtes-vous par hasard l'Anglais qui vient d'épouser Pepa ?»« C'est moi-même. »« Ah, vous avez épousé ma femme. » « Votre femme. »« Sans doute. Et vous allez me suivre au bout de la rue d'Alcala. Il y a là un petit carrefour solitaire où nous pourrons nous expliquer, l'épée à la main. » Lord Lynch ne demandait pas mieux, mais il exigea que le duel eût deux témoins, ce qui fut accordé par Don Juan. Le combat fut assez long, et Lord Lynch reçut deux blessures, mais enfin il tua son rival. « Ah, il le tua ? » dit Charles. « Eh bien, c'est ce qui arrivera à M. Alfred s'il veut faire le majo espagnol. « Vous n'êtes pas à la fin de cette histoire ?» répondis-je à Charles. « Mais enfin, » me dit-il encore, « ce rival, ce Don Juan, ne ressuscitera pas, j'espère. Oh non, il est bien mort. » Rien ne peut vous donner une idée de la fureur de Pepa quand elle apprit la mort de celui qu'elle aimait. La jeune Espagnole se laissa emporter aux vœux les plus sanguinaires. Elle aurait voulu, disait-elle, verser du poison dans les légères blessures de son mari. Elle rassembla sur sa tête les malédictions. « La méchante femme !» s'écria Charles. « Pas du tout. Pepa était au contraire une bonne créature, mais pleine de passion et d'emportement. »« Et que fit ce lord ?» demanda Charles. Devenu pour sa femme un objet d'horreur, il quitta l'Espagne, chargé des vœux homicides d'une furie qui maudissait le jour où elle l'avait vu pour la première fois. Le malheureux fut pendant 10 ans fidèle à ce nœud fatal. Enfin, il devint amoureux d'une Anglaise et n'eut ni la force de résister à son amour, ni celle d'avouer ses premiers liens. Il se maria donc en Angleterre, et comptant sur la haine d'une femme et sur l'amour d'une autre, il vivait tranquille quand tout d'un coup il apprend la présence de l'Espagnole à Londres. Elle lui écrit, signe sa lettre de son nom à lui, et lui désigne le lieu et l'heure où elle l'attend. Qui pouvait savoir si 15 ans auraient assoupi la haine de cette femme ? Que voulait-elle ? Elle pouvait le perdre d'un mot. Après avoir quitté sa femme chérie, Lord Lynch était venu rue d'Oxford et avait forcé sa bouche à nommer son ennemi, peut-être son bourreau, Milady Lynch de Madrid. Une femme de chambre d'une trentaine d'années se présenta bientôt, et rien qu'à l'aspect de cette femme, le major se repentit presque de sa démarche, quelque forcée qu'elle fût. Mathéa, Mathéa ! Mathéa le regarda avec attention, et paraissant le reconnaître, elle lui dit « Vamos en el cuarto de su mujer. Allons dans l'appartement de votre femme. »« Ma femme, ma femme ?» se dit-il. Et ces seuls mots lui rappelèrent sa jeunesse, Madrid, et cette rue d'Alcala, dont, depuis 15 ans, il cherchait à éloigner le souvenir de sa mémoire. « Oh mon Dieu !» pensa-t-il. « Encore un témoin, encore une femme qui peut me perdre. » Il maudit alors sa précipitation, qui lui avait fait prendre le parti le plus dangereux, sans demander un conseil à quelque ami dévoué, sans s'être informé seulement de la personne qui tenait dans sa main sa vie et son honneur. C'est qu'il était difficile, dans une affaire aussi délicate que celle qui l'amenait, de demander un conseil, et presque impossible de prendre un confident. « Ah oui, vestra merced, là, monsieur, » dit Mathéa en ouvrant une porte et en indiquant une portière de soie. Le major souleva la portière et se trouva devant Pepa de la Ronda, devant Milady Lynch, devant sa femme. L'Espagnole était assise, ou plutôt couchée, sur une petite ottomane, disposée de manière à ce que la frileuse madrilène pût recevoir toute la chaleur que renvoyait la cheminée. Enveloppée de fourrure et les mains cachées sous un mantelet, on ne voyait que sa figure, ses cheveux noirs, et sous l'arc d'ébène des sourcils, deux yeux brillants qui lançaient des éclairs. On aurait dit une panthère prête à s'élancer sur sa proie. Elle demeura immobile à la vue du major, et lui, debout au milieu du petit boudoir où on l'avait introduit, regardait cette femme dont la figure n'avait point changé et qui paraissait aussi belle qu'elle l'était 15 ans auparavant. « Milord, dit-elle dans un anglais correct, mais avec un accent étranger, vous avez perdu vos beaux cheveux blonds, la rondeur de vos joues et la fraîcheur de votre teint. Vous ne savez pas conserver ce que vous avez. » Le major prit un fauteuil et s'assit devant cette femme qui se pelotonna dans son ottomane pour mettre entre elle et lui le plus de distance possible. « Milady, dit le major en lui donnant le titre qu'il portait, de peur de blesser une femme dont il connaissait la violence, j'ai reçu ce matin votre lettre et vous voyez mon exactitude à me rendre à vos désirs. 8h30. N'est-ce pas l'heure que vous avez fixée vous-même ? » Pepa jeta les yeux sur une pendule de bronze qui au moment même sonna l'heure qu'indiquait le major. Celui-ci continua. « Je vous épousais il y a 15 ans, Milady. Malgré moi, monsieur, malgré moi !» s'écria l'Espagnol en se levant d'un seul bond. « Ah, Juanito, alma de mi corazón, mi provechito, Juanito !»« Permettez, » lui dit le major avec calme, « et ne nous irritons pas en rappelant trop amèrement des souvenirs douloureux. Quand j'arrivais à Madrid, vous aimiez, il est vrai, le seigneur Don Juan de Quintes, et vous vouliez l'épouser. Je vous aimais, et votre père me promit votre main, pas moi. Au contraire, une querelle s'éleva entre Don Juan et vous, et à moi, qui ignorais tous ces détails, vous me dites que vous m'aimiez, et vous m'avez épousé librement, et sans que je puisse me douter de ce qui se passait dans votre cœur. « Jamais je ne vous ai aimé, monsieur, jamais !» s'écria l'Espagnol en larmes. « Je le sais bien, » continua le major. Mon rival seul était aimé, mais je l'appris trop tard. Je ne vous ai pas trompé. Vous avez même quitté la maison de votre père pour fuir avec Don Juan, et lui, désireux d'une vengeance plus complète, et croyant la trouver dans un duel, me provoqua lui-même. Je fus plus heureux que lui, je le tuai. » À ces derniers mots, l'Espagnol éclata en sanglots. Elle invoqua la Sainte Vierge, tous les saints de l'Espagne, et se livrant à cette exaltation méridionale dont la fureur ne connaît ni frein ni limite, « Oh, Maria Purissima, tu m'avais bien promis de me venger, 100%, je te remercie. Ce ne sera pas la Vierge qui nous vengera, mais vous-même, je le vois. N'est-il pas vrai, madame, qu'après ces événements malheureux, je devins pour vous un objet d'horreur et d'exécration ? » Nos religions différentes nous éloignèrent encore. Je suis anglais et protestant, vous, espagnol et catholique, et votre confesseur, le père Don Pablo de Quintes, était le frère de ma victime. Il ne me restait aucun espoir de vous apaiser. Dieu sait cependant si je vous aimais. Je retournais en Angleterre, où vous ne m'auriez pas suivi pour tout l'or du Mexique. Nous avons été mariés cependant, et religieusement unis même à vos yeux. mariée par le curé de la cathédrale de Madrid et par le chapelain de mon parent l'ambassadeur. Je partis sans vous, et je dus me faire un devoir d'oublier une femme qui me haïssait par amour pour un autre homme et pour une autre religion. Cet homme, que vous regrettiez, était votre premier amour, je l'avoue. Mais si votre haine vous permet de comprendre que vous n'êtes pas la seule à avoir des passions, pouvez-vous oublier que vous étiez, vous aussi, mon premier amour à moi? Et croyez-vous n'avoir pas complètement vengé le seigneur Don Juan de Cuentes? Pepa, les deux poings fermés et ses sourcils froncés, laissa échapper de ses lèvres à demi fermées ces deux mots espagnols que le major ne comprit que trop bien. « No todavía, pas encore. »« Jamais, » continua le major, « vous n'avez daigné me faire savoir si vous viviez, ni où vous viviez, ni comment vous viviez. Non, Pepa, non. Je n'en suis pas encore réduit à ne pas soutenir vos regards irrités. Jamais vous ne m'avez fait savoir comment vous viviez. » 15 ans se sont passés, alors moi, qui durant 15 ans ai vécu seul, isolé, j'ai fait une faute. J'ai trompé, non pas vous, mais une jeune fille douce et innocente, qui a eu foi en ma parole. J'ai trompé une famille honnête, et moi, homme marié, je me suis de nouveau engagé à être le protecteur d'une seule femme. « Oh, ma femme !» s'écria Lord Lynch en versant quelques larmes. « Oh, ma femme ! Oh, mes enfants !» Cette fois, ce ne fut pas en espagnol que Pepa répondit à ce cri de douleur. Elle parla anglais, comme si elle voulait se rappeler plus vivement au major la loi qu'il avait bravée. « Vos enfants ?» dit-elle, « vos enfants ? Bastard ? Unlawful ?» C'était là une rude femme, me dit encore Charles. « Non, lui répondis-je, c'était, je vous l'ai dit, une femme passionnée, c'est tout. » Le major furieux s'empara du bras de cette femme et la rejeta violemment sur son ottomane. « Oh mon Dieu ! » s'écria-t-il en s'éloignant d'elle. « Oh mon Dieu, protégez-moi, faites-moi la grâce de ne pas devenir un meurtrier. » « Écoutez, dit-il en se rapprochant. « Que voulez-vous? Combien d'or? Combien d'argent? Je vous donnerai plus que je ne possède. Je vous donnerai la fortune de mes amis. »« Le major croit qu'on m'achète, » dit Pepa avec un sourire dédaigneux. « Je ne crains pas la mort, » ajouta le major d'une voix tremblante. « Mais la honte, mais le désespoir de ma femme, mais ce mot terrible dont vous avez nommé mes enfants. Au nom du ciel, acceptez ce que je vous offre et fuyez. Ou bien, si vous voulez vivre en Angleterre, ne vous vengez pas. » « Au moins pas encore, et laissez-moi fuir. Je quitterai l'armée. Je prendrai avec moi ma femme et mes enfants, et nous irons nous cacher en France ou en Allemagne. » Pepa regardait le major d'un œil implacable, et son sourire féroce ne laissait espérer ni grâce ni merci. Elle se leva pour sonner, puis se jeta dans son ottomane et reprit cette même attitude de panthère effarouchée qu'elle avait à l'arrivée du major. Mathéa apparut. « Mathéa, » dit Pepa, « je crois qu'il y a quelqu'un dans le parloir. Faites entrer. » Lord Lynch comprit que c'en était fait de l'honneur de sa famille, du sien propre et de sa vie. Il ne voulut pas s'abaisser et demander grâce 2 fois, et jetant un regard de dégoût sur cette hyène qui voulait sa proie, il se hâta de sortir de la maison. « Eh bien, Mathéa, » dit l'Espagnol, quand elle fut seule avec sa camériste, « tu l'as vu, cet Anglais ? Il venait demander la vie. » « Penses-tu qu'il ait payé le sang de Juanito ?»« No todavía, » répondit la servante, qui, invisible derrière la portière, avait tout entendu. « Ainsi, » poursuivit Mathéa, « on va pendre ce gentilhomme ?»« Je n'ai qu'à faire un signe, » dit Pepa d'un air nonchalant. « Ah, mon Dieu !» s'écria Charles. « Elle le fera ! Elle le fera ! Et vous appelez cela une bonne femme ? Attendez jusqu'à la fin !» Alors, les deux Espagnols se mirent à parler des suites probables de l'événement, dont l'une d'elles était maîtresse, et peu à peu la pitié rentra dans leur cœur. Les passions des peuples du Midi sont violentes, mais mobiles, et une Espagnole, si elle est cruelle, ne l'est pas du moins longtemps. Une affaire, qui n'avait aucun rapport avec son mariage, avait amené Pepa à Londres. Elle y avait appris le nouveau mariage de Lord Lynch, et avait voulu le voir plutôt pour se venger par un pardon que par une dénonciation. Il est vrai qu'à l'aspect du major, toute sa haine s'était réveillée, et que le spectre de Juanito avait paru sortir de son tombeau pour se placer entre elle et Lord Lynch. Mais ce Juanito était mort depuis 15 ou 16 ans. Il avait provoqué le major, il avait été tué loyalement, et en descendant dans sa conscience, Pepa trouvait le souvenir des vœux homicides qu'elle formait contre son mari. Combien de fois ne s'était-elle pas réjouie de l'abandon de cet époux anglais? Que de vœux, que de prières n'avait-elle pas fait à la Vierge et aux saints pour que cet abandon fût éternel? Ensuite, dans cette Espagne toujours galante et amoureuse, libre, jeune et belle comme elle l'était, quel plaisir s'était-elle refusée? Quel jeune amoureux était mort désespéré de ses rigueurs? Si le Juanito tant regretté revenait au monde, de qui devrait-il justement se venger, du major ou d'elle? « Supposons, madame, disait Mathéa, que la bonne mine du major avait touché, supposons que votre mari n'ait pas une autre femme. Voudriez-vous vivre avec lui, soit à Londres, soit même à Madrid ?»« Que le ciel et tous les saints du paradis m'en gardent !» s'écria Pepa. À ce moment, un domestique entra, une lettre à la main. Une lettre d'Espagne, de Madrid même, une lettre d'amour s'il en fut jamais, toute pleine de serments et d'ardentes prières. On y engageait Pepa à quitter la froide Angleterre pour le ciel doux et brillant de Madrid. Quand une femme a passé 30 ans, rien n'est persuasif comme une lettre d'amour. Pepa rougit de plaisir et elle ne forma plus qu'un vœu, celui de regagner le pays où croissent les citronniers, où les castagnettes résonnent si amoureusement aux oreilles. « Tu as raison, Mathéa, dit-elle à sa camériste, point de rigueur. Je n'ai ni le droit ni le vouloir d'être sévère. Mais qu'il me promette, qu'il me jure de ne jamais me réclamer comme sa femme. S'il devenait jamais veuf, il serait capable de venir à Madrid avec ses enfants. » Aussi désireuse alors de rassurer le major qu'elle avait été jalouse de l'effrayer un instant auparavant, elle demanda une voiture et, malgré la violence du froid, elle se fit conduire à Grosvenor Square où demeurait le major. « Cet Anglais va être bien étonné, disait-elle. Ce sera une scène de comédie. Comme cet homme est violent. Il a failli me tuer quand j'ai appelé ses enfants unlawful. » Elle se faisait un plaisir singulier de voir cette femme, cette seconde Milady Lynch, cette Anglaise exacte, réservée, cérémonieuse et formelle, comme on dit en Angleterre, cette femme si fière de sa vertu et que d'un mot, elle pouvait rejeter au dernier degré de l'échelle sociale, parmi les femmes sans nom, à qui elle pouvait ôter sa fortune, son rang, son mari. Mais loin de là, elle serait généreuse, avec grâce. Elle serait royalement généreuse. Elle serrerait les mains de Milady Lynch. Elle caresserait les enfants. Elle arriva, et pour satisfaire sa curiosité de femme, au lieu de demander Lord Lynch, ce fut Milady qu'elle voulait voir. La femme anglaise avait 25 ans à peine, et sa figure douce et calme offrait ce type gracieux commun aux femmes du Nord. Son plus jeune enfant était sur ses genoux, et les deux autres, ayant grimpé sur les bras du fauteuil où elle était assise, se disputaient les deux joues de leur mère qu'ils couvraient de baisers. Ces quatre têtes confondaient ainsi leur chevelure blonde et le satin rosé de leur figure. C'était un tableau dont la suaveté tranquille n'avait jamais été même rêvée par l'ardente espagnole. Pepa s'approcha des enfants et les caressa, puis elle demanda à voir Lord Lynch. « Mon mari, répondit la jeune femme, est rentré malade et fatigué. Il s'est retiré chez lui et a demandé qu'on le laissât seul jusqu'à demain. Si vous voulez, madame, revenir demain, vous le verrez. On est habitué ici à respecter sa volonté, et personne n'oserait ce soir pénétrer dans son cabinet. » L'Espagnole insista. Elle assura Milady Lynch qu'elle apportait à son mari des nouvelles tellement heureuses que, loin de se fâcher d'avoir été désobéie, il en serait au contraire charmé. Elle se nomma ensuite et demanda qu'on voulût bien dire au Lord que Donna Carmel y Pepa de la Ronda n'exigeaient qu'un moment d'entretien. On céda. Ensuite, avec une pétulance qui tenait peut-être à l'ardeur de son sang, peut-être à quelque inexplicable pressentiment, elle se leva et voulut pénétrer chez le Lord sans être annoncée. Mais cela était contraire à tous les usages de la maison, et Milady Lynch s'y opposa formellement. « Allez, Dick, » dit-elle à un domestique, qui avait déjà fait un pas vers l'appartement du major. « Il faut au moins que Milord soit prévenu. » Le domestique pénétra chez son maître, et au bout de quelques minutes, le bruit d'une détonation fit tressaillir les trois enfants et jeter un cri à leur mère. « Madame, » s'écria Pepa, « nous voilà veuves toutes deux. » L'Anglaise, toute tremblante et serrant auprès d'elle ses enfants, ne comprit pas ce que lui disait l'étrangère. Mais quand Dick rentra pâle, et couvert de sang, et qu'il murmura en sanglotant, « Madame, Milord a reçu la visitation de Dieu. » Milady Lynch s'évanouit. « Ah ça, entendons-nous » s'écria Charles. « Vous avez commencé par me dire que je n'épouserai pas Aglaé, mon Aglaé, et vous admettez ensuite, non seulement qu'elle sera ma femme, mais encore que je serai le mari d'une autre en même temps que le sien. Car voilà le cas du Major Lynch, et ce n'est certes pas le mien. Il s'en faut de deux femmes. » « Oui, c'est un exemple que je mets sous vos yeux, et je vous le répète. Vous serez coupable si vous allez plus avant, car vous êtes instruit de l'amour de Mademoiselle Aglaé, et Lord Lynch ignorait absolument que Mademoiselle Pepa eut un amant. » Les amoureux sont aveugles, mais ce Charles Rimbaud, au lieu de répondre quelque chose de sensé, se leva brusquement et me demanda si ma femme était prête. « Pourquoi faire, mon Dieu ? » lui dis-je. « Vous le savez bien, pour la corbeille. » Nous en étions là, quand le domestique de Charles entra dans mon cabinet une lettre à la main. C'était une missive de M. Alfred qui appelait mon ami en champ clos. Charles, enchanté, me quitta sans me dire même de quoi il s'agissait. J'avais refusé d'être son garçon d'honneur, j'avais refusé d'acheter sa corbeille, il ne me jugea pas digne de l'accompagner sur le pré. Tout se passa fort bien. Mon ami Charles Rimbaud eut un grand coup d'épée au travers du corps, et 8 jours après, M. Alfred épousa Mademoiselle Aglaé. Il aurait pu arriver pire. Ainsi s'achève le Major Lynch de Marie Écart.